les ennemis de l'Iran n'ont pas réussi à faire s'effondrer l'économie iranienne en dépit des pressions qu'ils exercent sur le pays au moyen de sanctions, a réitéré le président iranien Hassan Rouhani. Plusieurs violentes explosions ont été entendues dimanche sur une base militaire située au sud de Bagdad, la capitale irakienne, et plus de 60 personnes ont été tuées dans une nouvelle tuerie au Darfour, au Soudan. C'était le titre. En voici le journal. Le président iranien Hassan Rouhani a déclaré dimanche 26 juillet que les ennemis de l'Iran n'avaient pas réussi à faire s'effondrer l'économie iranienne en dépit des pressions qu'ils exercent sur le pays au moyen de sanctions. Le gouvernement iranien est parvenu à surmonter les pressions économiques exercées par l'ennemi et même à accélérer la production nationale, a affirmé M. Rouhani. Alors que l'ennemi prévoyait initialement de faire monter la pression et de renforcer ses sanctions pour perturber l'approvisionnement de l'Iran en produits de première nécessité, le gouvernement iranien a réussi à annuler les effets de ces sanctions en coopérant avec le peuple et avec les hommes d'affaires, entrepreneurs, producteurs, exportateurs locaux, a précisé dimanche M. Rouhani au cours d'une réunion du quartier général de la coordination économique du gouvernement. Il a souligné que son gouvernement était déterminé à continuer à appliquer un programme d'approvisionnement régulier en devises afin de pouvoir acheter des produits de base et des matières premières en dépit des pressions étrangères. Depuis que les États-Unis ont quitté l'accord sur le nucléaire iranien en été 2018, l'économie iranienne est soumise à une extrême pression par les sanctions unilatérales de Washington. Plusieurs violentes explosions ont été entendues dimanche 26 juillet sur une base militaire située au sud de Bagdad, la capitale irakienne, a indiqué une source au sein du ministère de l'Intérieur de l'Irak. Ces explosions d'origine inconnue se sont produites dans la soirée dans des entrepôts d'armes et de munitions de la base militaire d'Al-Sarr au sud de Bagdad, a déclaré la source. Une brève déclaration du service de presse du commandement des opérations conjointes irakien a confirmé qu'un dépôt d'armes appartenant à la police fédérale irakienne a explosé dans la banlieue sud de Bagdad en raison des températures estivales élevées et du mauvais stockage. La chaîne d'information Qatari Al Jazeera a également rapporté que 3 roquettes s'étaient abattues sur la base d'Al-Sarr dans le sud de Bagdad. Une source auprès des Hach al-Shabi a déclaré à la chaîne de télévision d'information russe Russia Today que le camp avait été bombardé par un avion inconnu, probablement un appareil américain. Le commandement des Hach al-Shabi engagé dans l'opération de Samara a mis en garde contre les tentatives sporadiques de Daesh pour porter atteinte au lieu saint de Samara depuis le 3 mai et a appelé les forces sous son commandement à être en état d'alerte pour défendre le sanctuaire d'Al-Askari. En Syrie, 8 civils sont tombés en martyrs, dont des femmes et des enfants, et d'autres ont été blessés dans l'explosion d'une voiture piégée dans la ville de Ras Al-Ain, où se déploient des groupes terroristes liés au régime d'Erdogan, dans la banlieue nord-ouest de Rasaké. Citant des sources locales, le correspondant de l'agence de presse officielle syrienne Sana à Asaké a fait noter qu'une voiture piégée garée dans un marché de légumes avait explosé ce lundi matin, ce qui a fait 8 morts, dont des femmes et des enfants, et 2 blessés dont certains sont dans un état critique. L'explosion a causé aussi des dégâts matériels dans les propriétés. La Russie livre sa première cargaison de pétrole arctique à la Chine. La position de leader qu'occupe la Chine dans l'exploration et le développement des énormes gisements de gaz de l'Arctique lui a permis d'accroître considérablement sa production de gaz naturel liquéfié GNL et a fait que la Russie s'affirme incontestablement en tant qu'une superpuissance gazo-pétrolière. La Russie détient déjà une place assurée dans le secteur du gaz arctique et aujourd'hui elle est en passe de devenir le numéro 1 des fournisseurs de gaz auprès de la Chine. La société russe Gazprom Neft, troisième plus grande compagnie pétrolière de la Russie en termes de production et bras pétrolier du géant gazier d'État Gazprom, a expédié la semaine dernière sa première cargaison de pétrole depuis l'Arctique vers la Chine via la route maritime du Nord, NSR. Cette livraison de pétrole arctique vers l'Est s'ajoute à ses exportations occidentales existantes via la NCR vers l'Europe. Gazprom peut désormais comptait sur ses ventes de pétrole arctique pour dominer le marché européen et ceux de l'Asie-Pacifique. Ouvrons maintenant la page de l'actualité africaine. Au Soudan, plus de 60 personnes ont été tuées dans une nouvelle tuerie au Darfour. Selon l'Agence des Nations Unies, environ 500 hommes armés ont attaqué samedi la localité de Mastéri, un village habité par des agriculteurs issus de tribus africaines situées à 48 km de la capitale provinciale d'El Geneya, au Darfour Ouest. Quelques 500 hommes armés ont mené un raid meurtrier contre un village habité par des agriculteurs issus de tribus africaines, tuant 60 d'entre eux au Darfour, où le nouveau gouvernement va envoyer la troupe pour enrayer cette violence endémique. Il s'agit de l'incident le plus sanglant d'une série qui s'est produite la semaine dernière dans plusieurs parties du Darfour, dans l'ouest du Soudan, où depuis des années de violence oppose sur la question sensible des terres et de l'eau, les tribus nomades arabes aux agriculteurs issus de tribus africaines. Plusieurs maisons dans le nord, le sud et l'est du village ont été pillées et brûlées, ainsi que la moitié du marché local, a indiqué dimanche le bureau de la coordination des affaires humanitaires OCHA de l'ONU à Khartoum. Il s'agit du dernier d'une série de 7 incidents violents entre le 19 et 26 juillet, laissant des dizaines de morts et de blessés et qui se sont traduits par des villages et des maisons brûlées, ainsi que des marchés et des magasins endommagés. Dans cet état, a précisé l'ONU. Selon l'organisation internationale, cette escalade de la violence dans différentes parties du Darfour provoque des déplacements de population et met en danger la saison agricole, qui coïncide avec la saison des pluies. Et le président de la République tunisienne, Kais Saied, a chargé Hichem Mechichi, l'actuel ministre de l'Intérieur, de former un nouveau gouvernement. Conformément à la constitution tunisienne, le président tunisien a utilisé le délai de 10 jours depuis la démission du chef du gouvernement, Elias Farfa, pour désigner la personnalité la plus apte à former un nouveau gouvernement. M. Mechichi aura un ultimatum de 30 jours pour composer son cabinet et bénéficier de la confiance de l'Assemblée des représentants du peuple avec une majorité absolue, soit 109 voix favorables sur les 217 possibles. À noter que l'article 89 de la Constitution tunisienne stipule que le président de la République doit effectuer pendant 10 jours des concertations avec les partis, coalitions et blocs parlementaires afin de charger la personnalité la plus apte à former un nouveau gouvernement en moins d'un mois. Selon la presse locale, le président Kais Saied a reçu pas moins d'une vingtaine de propositions de la part des partis, notamment les anciens ministres des Finances Hakim Ben Hamouda et Mohamed Fakhel Abdelkifi, ainsi que Hayam Turki, Habib Gejaou et l'actuel ministre de la Défense, Imed Azgi. Voilà, ainsi s'achève le journal. Restez à l'écoute du commentaire politique. Israël, Hezbollah, la terrible révélation. C'est le titre du commentaire politique. Transis par la peur d'une possible riposte du Hezbollah, les batteries de Dôme de fer ont fait ces dernières heures leur apparition avec une vitesse extraordinaire sur le front nord, à peine à 6 km du sud du Liban, de comme à Jabal al-Sheikh ou encore dans le Golan occupé. Un drone israélien a été abattu dimanche dans les fermes de Sheba occupées, avant même d'infiltrer le ciel libanais. Dans la foulée, l'armée israélienne a confirmé le crash comme pour éviter qu'on comprenne qu'un de ces drones venait d'être abattu par ce facteur qui se confirme de plus en plus sur le front nord, une Dessa syro-libanaise. Dans une brève déclaration, le porte-parole de l'armée israélienne, Avichai Adraï, a affirmé qu'il n'y a pas de crainte de fuite d'informations. Mais qui le croirait alors même que l'état-major israélien est sans dessous-dessous au point d'appeler le général Milley, chef d'état-major US, au secours? Si l'armée israélienne a appelé à l'aide de l'Américain Milley, c'est qu'Israël n'a aucune idée de la nature et de l'ampleur de la riposte du Hezbollah. L'état-major israélien se trouve dans un état de totale cécité, vu les surprises qui se succèdent en ce moment depuis la Syrie et le Liban à l'adresse de l'armée israélienne. Israël s'attendait à tout, une riposte du Hezbollah depuis les airs, dans les airs ou en mer, une réponse de missiles contre les forces terrestres israéliennes, voire même une riposte qui viendrait de l'Iran après l'interception de son avion civil dans le ciel syrien. Cette riposte pourrait même être celle de la Syrie, dont les terres sont soumises à des frappes aériennes et de missiles israéliens continus. Tel Aviv se trouve face à un bloc uni aux dimensions inconnues. Tout ceci n'augure rien de bon pour un Israël qui attend un terrible scénario de riposte comme suit. Un débarquement de l'unité d'élite du Hezbollah en Galilée, ce qui devrait inciter l'armée israélienne à évacuer précipitamment la zone frontalière, façon de permettre à l'armée de l'air israélienne de bombarder toute éventuelle infiltration. La crainte de la riposte du Hezbollah vidait une longue bande frontalière, limitrophe du sud et du sud-est libanais de la Beka occidentale à Hermel, des militaires israéliens pour les remplacer par des drones. À quoi cela rime? Certains analystes parlent d'un retrait de l'armée d'occupation des zones occupées du Liban sans qu'il y ait aucune guerre. La potentielle riposte du Hezbollah a déjà provoqué de lourds dégâts, plaçant pour la première fois depuis un bon tout de temps la première puissance militaire du Moyen-Orient, architecte de la guerre dans la guerre en Syrie, dans une posture défensive. Dimanche, le secrétaire général adjoint du Hezbollah libanais, Sheikh Naim Rassem, a enfoncé le clou sur Al-Mayadin. Le Hezbollah reste déterminé à venger le sang de ses martyrs. L'équation de la dissuasion du Hezbollah face au régime sioniste se tient et se tient ferme. La résistance ne veut y changer quoi que ce soit. Que les Israéliens y réfléchissent et s'en inquiètent.